Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, au chapitre 27, les versets 1 à 29. Genèse, chapitre 27, versets 1 à 29. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes et ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père! » Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il en mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il le but. Alors, Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Alors, tu veux vous asseoir. Alors, la semaine dernière, on avait commencé, on va faire une révision de ce qu'on a vu un petit peu rapidement pour pouvoir terminer la leçon qu'on n'avait pas eu la chance de terminer la semaine dernière. Alors, je rappelle le titre que j'avais donné au sermon, « L'opposition au plan du Seigneur, c'est quelque chose qui est absurde ». Et on avait regardé une couple de versets, bien sûr, il y en a plus que deux, là. Mais les Écritures nous enseignent que lorsque Dieu décrète quelque chose, lorsque Dieu prend une décision quelque part, ça s'accomplit invariablement, immanquablement, il n'y a pas rien pour s'opposer à ça. Bien sûr, quand on regarde l'histoire de la Bible, on se rend compte que il y a des hommes qui se sont opposés à la volonté de Dieu, et Satan s'est opposé à la volonté de Dieu depuis le début jusqu'à la fin, et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il va s'opposer. Mais les décrets de Dieu sont... Ils vont s'accomplir de façon invariable. Alors, on va relire les deux versets qu'on avait lus la semaine dernière pour nous rappeler ce principe-là. Parce que, dans le fond, c'est la leçon principale qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui. Que quand Dieu décrète quelque chose, la chose s'accomplit tout le temps. Alors, on va aller voir Isaïe 14, au verset 24. Vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous lire les versets. Et l'Éternel des armées l'a juré, disant, « Certainement, la chose arriva comme je l'ai projetée, et ce que j'ai résolu s'accomplira. » Voyez-vous, la décision de l'Éternel, l'accomplissement. Ça, c'est immanquable. Daniel 4, verset 35. Très beau livre qui parle de la souveraineté de Dieu, Daniel, le livre de Daniel. Daniel 4, verset 35. « Devant lui... » En parlant devant lui, c'est devant Dieu. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu ?» L'Éternel a pris des décisions sur plein de choses. Les décrets de Dieu vont s'accomplir invariablement. Alors, on se souvient que Dieu avait dit qu'il y avait les deux enfants qui étaient venus au monde, étaient deux jumeaux, mais que leur sort était différent, mais c'est Dieu qui avait dit que leur sort serait différent. Alors, on a ça dans Genèse, au chapitre 25, au verset 23. « L'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre. » Alors, bien entendu, c'est deux enfants qui deviendront le père de deux nations différentes. Et deux peuples sortant de tes entrailles se séparent. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au moindre. Autrement dit, celui qui est sorti de deuxième, c'est Jacob. Celui qui est sorti de premier, c'est Ésaü. Normalement, dans la Bible, l'aîné a toujours de très, très grands privilèges par rapport à son frère le plus jeune. Alors ici, il est en train de dire que c'est ça qui va arriver. Le plus jeune va être plus fort que le plus vieux, même si le plus vieux sort en premier. Et à quelque part, on va voir que dans le fond, la bénédiction, le droit d'aînesse, on se souvient, il faut reculer un petit peu dans le livre de la Genèse pour se souvenir qu'est-ce que ça comprenait, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était des privilèges qui étaient reliés au fait d'être le plus vieux. Même aujourd'hui, dans nos familles, le plus vieux, hein, le bébé qu'on appelle souvent, et le plus vieux. Dans une famille, il y a souvent des choses qui sont reliées à ça. Hein? Mais à l'époque biblique, c'était encore beaucoup plus important. Parce que Abraham avait reçu des promesses de Dieu et avait été transmise à Isaac. Là, Isaac s'apprête à vouloir donner la bénédiction qui irait normalement au plus jeune parce que la décision divine était là. Que c'était le plus jeune qui devrait en profiter. Et au lieu de... Il décide, lui, de donner ça à son plus vieux quand même. On a vu la semaine dernière que c'était passé quand même quelques années depuis qu'il avait pris conscience que Dieu avait pris cette décision-là. Mais autrement dit, même si c'est un être régénéré, sauvé, parce qu'il fait partie de la lignée messianique, on voit que ça nous rappelle qu'on est des pécheurs. Alors, Isaac est un pécheur. Il a essayé de bénir Ésaü à la place de son fils, et c'était pas ça que la décision divine. Mais on voit comment Dieu a travaillé tout cela pour changer les choses. Il faut se souvenir que le droit d'aînesse, si on lit ce passage-là qu'on vient de lire aujourd'hui, puis on ne se rappelle pas quels sont les privilèges qui étaient rattachés au droit d'aînesse, là, on manque le bateau complètement parce que, à quelque part, on lit juste une petite histoire sans importance. Oh, c'est quoi cette histoire-là? On ne comprend pas vraiment l'importance. Mais c'est de se souvenir, c'est comme on recule un petit peu dans le chapitre 25, 29 à 34, juste pour vous montrer que Ésaü, son droit d'aînesse et ce qui était rattaché, il l'avait méprisé. Il l'avait vendu pour un plat de bine. Alors, on va aller dans chapitre 25, 29 à 34. Et comme Jacob cuisait un potage, Ésaü revint des champs et il était là. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi donc avaler du roux, de ce roux, car je suis là. » C'est pourquoi on appelle son nom Édom, qui veut dire roux. Et Jacob lui dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Voyez-vous, ici, on a une indication que le plus jeune était conscient des privilèges qui étaient rattachés au droit d'aînesse. Parce qu'il dit, « T'as faim, tu reviens de la chasse, t'es brûlé, tu veux manger, hein? Mais vends-moi ton droit d'aînesse, je vais te donner un plat de bine après. » Mais le droit d'aînesse, si on veut comprendre qu'est-ce qui était rattaché, il faut vraiment se le rappeler. Et verset 32, « Et Jacob dit, Ésaü dit, excusez-moi, Ésaü dit, « Voici, je m'en vais mourir. » Il était fatigué, il avait été à la chasse, il avait faim. « Ce que tu veux que je fasse avec ça, le droit d'aînesse? Donne-moi de quoi, moi t'échangerai ça, un bargain. De quoi et de quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob lui dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Il venait de transférer son droit d'aînesse au plus jeune. Qu'est-ce que Dieu avait décidé? C'est à ça qu'il était décidé. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il vendit son droit d'aînesse. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Potage de lentilles, c'est une soupe au bine, quelque chose comme ça. Et il mangea et but, se leva et s'en alla. Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On va reviser les choses que ça donnait le droit d'aînesse, parce que si on ne le fait pas, on ne comprend pas la gravité du péché qu'il a fait. Et on ne comprend pas aussi la gravité du péché d'Isaac qui voulait le transmettre à son plus vieux malgré le fait qu'il savait que l'autre s'était disqualifié. Il y avait sept choses, sept privilèges que le droit d'aînesse accordait au plus vieux normalement. Donc, autrement dit, les sept choses que je viens vous nommer, c'est comme Ésaü, du moins pour moi, ça. Quand on considère les choses, on se dit quelque part, il manquait de jugeote, comme on dit. La première chose que l'aîné recevait, c'était la bénédiction de son père et toutes les bénédictions qui étaient contenues dans l'alliance que Dieu avait pris avec Abraham. Et ça, on peut les trouver dans Genèse 12, dans Genèse 22. On n'ira pas les relire ce matin, là, parce qu'on l'avait fait la semaine dernière. Mais si quelqu'un veut vraiment apprécier les promesses que Dieu a faites à Abraham, et c'était le plus vieux qui héritait de ça. Normalement, Abraham, quand il est mort, il l'a transmis à son fils Isaac. Et là, Isaac s'apprête à le faire, mais il ne fait pas au bon, autrement dit. Donc, Genèse 12, Genèse 22. Donc, la première chose, il recevait automatiquement les promesses qui étaient rattachées, qui avaient été données par Dieu lui-même à Abraham. Et ça se transmettait de père en fils, jusqu'à la venue de Jésus. À quelque part, c'était important. Donc, l'aîné recevait la bénédiction et toutes les bénédictions contenues dans la promesse de l'Alliance. Deuxième chose, l'aîné recevait l'autorité du père sur ses frères. Je ne sais pas si vous venez du texte qu'on a lu au début. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il l'a béni, il dit que le jeune était pour avoir autorité sur le plus vieux. Ça aurait dû être le contraire. Troisièmement, l'aîné devenait un maillon dans la chaîne de descendants qui va donner jour au Messie. Autrement dit, c'est comme si Dieu avait dit, tu vas devenir un des personnages par lesquels les maillons vont se transmettre jusqu'à Jésus, et toi, tu dis, for what? Hey, c'est un immense honneur que d'être dans les maillons qui ont amené la naissance du Christ. L'autre, c'est que l'aîné recevait une double portion de l'héritage paternel. Il recevait le plus vieux à cette époque-là, c'était de même, ça marchait, là. Quand le père mourait, il donnait à son fils le plus vieux deux fois plus qu'aux autres enfants, à quelque part. Et la cinquième chose, c'est que l'aîné agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu. Donc, c'était lui qui agissait comme pour... le sacrificateur, c'était celui qui allait devant Dieu, qui servait de sacrificateur. On sait que Jésus était le sacrificateur. Mais à cette époque-là, c'était à l'époque des patriarches, c'était... il aurait dû normalement l'aîné être sacrificateur de sa famille et de sa tribu. La sixième chose, c'est qu'il recevait l'héritage terrestre. L'héritage terrestre, t'as pas peu non plus, là. C'était le pays et le territoire de Canaan complet. Hey, c'était gros, là. Dieu avait donné beaucoup de choses qui se transmettaient par le droit d'aîné, et lui, il l'a méprisé. Et la septième chose, c'est que l'aîné jouissait de la puissance avec Dieu et avec les hommes. Autrement dit, Dieu faisait en sorte que tu vas être protégé, tu vas vaincre tes ennemis. C'était énorme. Et lui, il a craché dessus. Quand le Nouveau Testament parle d'Ésaü, pensez-vous qu'il en parle avec des mots flatteurs? Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait point de fornicateur ni de profane comme Ésaü, qui, pour un mais, vendit son droit d'aînesse. On parle du Nouveau Testament. L'évaluation du Nouveau Testament d'un geste qui a été commis par Ésaü, là, longtemps. Et parce qu'il dit que dans l'Église, qu'il n'y ait point de fornicateurs, on sait c'est quoi, ni de profanes comme Ésaü, de prendre des valeurs spirituelles qui ont beaucoup de valeur et de considérer ça comme ça vaut rien. Il dit qu'il n'y en est pas dans l'Église de ça. Quand on est dans l'Église de Dieu, qu'on est des enfants de Dieu, il faut privilégier et valoriser ce que Dieu considère comme important de spirituellement. Car, verset 17 est important aussi, « Car vous savez que voulant, même après cela, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoiqu'il la demanda avec larmes. » Quand il s'est rendu compte, parce que ça va être la leçon de l'autre humain, quand il va revenir de la chasse et que là, son père va lui dire hein, « Tu viens me porter un plat, ben je viens de n'avoir un plat. T'es-tu mon fils Ésaü? » Il va dire « Oui, je suis Ésaü. » Là, il va se rendre compte qu'il s'est fait avoir. Et là, il va être dans une colère. Il va vouloir tuer son frère au complet. Il va faire la job. Romains 9 nous parle aussi que dans ces deux personnages-là, il y a un symbolisme par rapport à l'élection. Romains 9, versets 9 à 16. Car voici les termes de la promesse. Je reviendrai en cette même saison et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en arriva de même à Rebecca quand elle eut conçu en une fois deux enfants d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le décret d'élection de Dieu demeura ferme. Non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, « L'aîné sera assujetti au plus jeune. » Oui, si on recule dans Genèse, là, on est rendu dans le livre de Romains, puis on parle encore de cet événement-là. Et là, ça dit dans le verset 13, « Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » On parle d'élection, là. C'est comme deux personnages qui représentent une personne qui croit à ce que Dieu dit, qui croit aux valeurs spirituelles, qui les prend, qui les accepte, qui les vit, et l'autre qui fait le contraire. Et il parle de ça en termes d'élection. Un, voyez son exemple, l'autre, voyez son exemple. Il parle de, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob », c'est Dieu qui parle, « et j'ai haï Ésaü ». Pourquoi il l'a haï? Parce que c'est le décret de l'élection. Dieu a décidé que c'est de même que ça se passait. Verset 14. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Nullement. Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Autrement dit, l'élection, c'est que c'est Dieu qui choisit qui va recevoir les bénéfices du salut. Puis c'est Dieu qui les donne, puis c'est Dieu qui les refuse. Il est le maître de ça. Ça, c'est important à tenir compte, parce que le passage d'aujourd'hui, si on fait juste lire la petite histoire, il y a des choses qu'on comprend, mais il faut comprendre la portée spirituelle de ce qui se passait à cette époque-là. Alors vraiment, l'opposition d'Isaac se voit dans le fait que malgré qu'il savait que Dieu avait dit que c'était le plus jeune qui hériterait de la bénédiction et non pas le plus vieux, ça, quand on dit normalement, ça aurait dû être le plus vieux. Mais si Dieu dit c'est le plus jeune, là, peu importe ce que tu feras, là, ça va être le plus jeune. C'est en plein ça qui se passe. Alors, Isaac décide quand même, malgré le fait qu'il sait que, la décision divine, de donner la bénédiction à son fils le plus vieux, Ésaü. Et ça dit pourquoi? Parce qu'il aimait les mets que son fils faisait. Il aimait ça, lui, un beau mets, là, avec de la belle sauce, là, avec des affaires que tu es allé chasser, là. Il aimait ça. Il aimait son fils, Ésaü, plus que... Et la mère, elle, c'était à l'inverse. Elle aimait plus... Alors, il y avait comme un conflit familial, déjà. Alors, Ésaü était devenu le préféré de son père. Et il s'était écoulé, selon les commentateurs, quelque chose comme 70 ans depuis que Dieu avait dit ça. Mais quand Dieu a dit une chose, même comment 70 ans après, est encore valable. Dans la Bible, Dieu a dit, Jésus a dit qu'il reviendrait. Ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Mais c'est encore valable même si ça fait 2000 ans. Le temps n'a pas d'importance. Quand Dieu dit quelque chose, c'est final. C'est ça qui se passe. Alors, il préférait son fils Ésaü. Il avait décidé de lui donner la bénédiction. Mais Dieu permet. Voyez-vous, il dit dans le texte, je ne sais pas si vous venez tout à l'heure dans le texte, il dit « Je suis vieux et je suis le bord de mourir. » Là, il y a 137 ans au moment où il dit ça. Lui, il pense qu'il va mourir. Moi, j'ai connu du monde comme ça dans mon passé, une personne âgée. Et elle disait « Je t'aveugle de mourir. » Elle était sûre qu'elle était pour mourir bientôt, bientôt, bientôt. Ça lui a pris 20 ans après qu'elle est morte. Alors, le jour de ton décès, c'est pas toi qui décide ça, là. Elle était probablement fatiguée de la vie, malade. Et pour elle, elle disait, « Bon, moi, en même temps, je suis concerné, je mourrais là, là. » Ou très peu de temps. Morte 20 ans après. Oui, dans son cas, lui, il avait 137 ans. Il pensait qu'il était pour mourir bientôt parce qu'il voulait donner la bénédiction avant qu'il meure. Mais il est mort à quel âge? 180. Ça fait 50 quelques années. Allez, à quelque part, Dieu avait décidé que c'était pas 137 qui mourrait, c'était 180. Alors, ça presse, ça passe. C'était juste dans sa tête que ça se passait. Je suis vieux, il faut que je te donne ma bénédiction avant que je crève. Puis, il est crevé pas mal plus longtemps après. Alors, le comportement d'Isaac était coupable envers Dieu, envers Rebecca, envers Jacob et envers Ésaü, parce que dans le fond, il péchait contre tout ce monde-là en même temps. Alors, il y a vraiment un dérapage qui se passe dans sa vie. Et son plaisir désordonné, des plaisirs de la table, son amour désordonné, son favoritisme parental qui est à causer encore. Une obstination aussi. Même si Dieu le dit, là, ça, il disait. Là. Lui, peut-être, dans sa tête, il se disait, « Oh, ben là... » Dans le fond, c'est le plus vieux qui devrait avoir ça. T'sais, il s'est obstiné. Mais on se souvient que Dieu dit que l'opposition de Rebecca et de Jacob va aussi se manifester. Elle décide, elle dit, j'ai entendu, Dieu permet que quand que lui a voulu faire ça en secret, il dit, va me chercher quelque chose, va te bénir après, mais elle est à l'écoute, en arrière de la porte. Puis elle a entendu son mari dire « Je vais le bénir. » Et lui a dit « T'écoute aux portes. » Mais Dieu s'est servi du péché de Rebecca pour que elle et son fils se mettent ensemble encore une fois pour s'opposer. Parce que là, elle comprenait que c'était le plus jeune qui aurait dû l'avoir. Elle avait raison. Mais tu n'as pas besoin d'aider les plans de Dieu. Je pense que c'est une des leçons qu'on apprend dans le texte d'aujourd'hui. On n'a pas besoin d'essayer d'aider Dieu dans le déroulement de ses décrets et de ses décisions. Ils sont essayés toutes les deux. Imaginez-vous, c'était vraiment vouloir tromper son mari, dire à son fils, on va te mettre du poil sur les mains, on va te mettre du poil dans le cou, on va t'habiller comme mon fils, ça va sentir comme mon fils. Puis s'il te demande, t'es-tu Isaü, tu vas dire, oui, je suis Isaü. Que par le nombre de péchés qu'il y a là-dedans, c'est énorme. Alors, on avait parlé du péché de Rebecca. Un des péchés de Rebecca, c'est vraiment une inconscience présomptueuse. Quand elle dit, par exemple, quand lui a dit, « Ouais, mais maman, pas pour aller là, parce que si je vais là, puis papa, il se rend compte que je suis pas Isaü, ça va être la malédiction que je vais avoir. » Là, il se rend compte de la portée et des conséquences possibles de son geste. Mais elle a dit, imaginez-vous, elle ne savait pas ce qu'elle disait, là. Elle disait une chose énorme. « Que ta malédiction tombe sur moi, mon fils. » Elle voulait tellement que ça soit le plus jeune qui ait la bénédiction paternelle qu'elle dit, « Inquiète-toi pas que ça, là, la malédiction, je la prends sous moi. » Elle ne savait vraiment pas ce qu'elle disait. Rebecca prend aussi un risque grave envers Isaac en prenant davantage de son infirmité, de son vieil âge, du fait qu'il voyait plus clair pour faire ça. À pécher envers son mari, pas à peu près non plus. Elle risque aussi de devenir coupable envers Jacob parce que, comme mère de famille, tu n'es pas là pour enseigner à tes enfants à mentir et à tromper. Donc, son rôle de mère, elle le jouait très mal ce matin-là. Et elle joue aussi un autre risque envers Isaü parce que, déjà, les relations familiales étaient tendues parce que Isaü avait décidé qu'il mariait des Hittiennes, qui on a vu que c'était des personnes dans le pays de Canaan, qui étaient très versées dans l'idolâtrie au point de sacrifier leurs enfants à Moloch. C'était énorme comme péché. Et lui, il a marié ces deux filles-là. Pourquoi Dieu n'a jamais voulu que son peuple se marie avec les étrangers qui étaient dans le pays de Canaan? Parce qu'il savait que les femmes, invariablement, amenaient la personne qui se mariait avec eux dans leur idolâtrie. À quelque part. Lui, il avait décidé qu'il en mariait deux, puis un petit peu plus tard, on va apprendre qu'il en a marié une troisième. Alors, les relations familiales étaient déjà très tendues, très mal parties, comme on pourrait dire. Et là, le fait de tromper son mari, tromper Isaü, parce que Isaü, quand il va s'en rendre compte, on va le voir la réaction, il va vouloir le tuer, son frère. Ah oui, t'as voulu me voler ma bénédiction? Bien, moi, je vais te... À quelque part, c'est... Alors, le risque envers son enfant Isaü, son péché envers son enfant Isaü, c'était d'envenimer une situation qui était déjà très, très, très difficile. Alors, elle assume mal son rôle de mère, elle est indiscrète, elle abuse d'autorité, elle trompe son mari, elle est très effrontée et elle use d'hypocrisie en mettant le plus beau manteau, en préparant un mec, en disant que c'était du mec qui venait de la chasse, alors que c'était pas vrai. Un paquet de mensonges. Péché de Jacob. Péché de Jacob, lui, c'est le comportement. Il embarque dans l'histoire de sa mère. Il décide que oui, je vais t'écouter, maman, je vais me mettre du poil sur les mains, puis je vais me mettre du poil dans le cou, puis je vais me mettre un manteau, puis je vais dire que je suis ton fils, alors qu'il n'est pas son fils. Alors lui, il n'est pas ben plus intelligent là-dedans. Là. Il embarque dans ça, là. Alors, on était rendu là, la semaine dernière. Là, on va voir un petit peu le péché d'Isaü. Le péché d'Isaü est grave aussi, parce que, premièrement, il jouait un rôle pour obtenir de son père la bénédiction, alors que lui-même s'était disqualifié personnellement. C'est comme tu veux obtenir quelque chose que tu sais que tu n'as plus le droit d'avoir. C'est plus compliqué que ça. Alors, le péché d'Isaü réside là-dedans. Lui, il décide de « Ah, la bénédiction, je peux l'avoir pareil. Mon père est en train de vouloir me la donner juste pour aller à la chasse. Oui. » Alors, l'échec de l'opposition à Dieu est démontré dans les versets 28 et 29. Parce que là, Isaac va donner la bénédiction au plus jeune, alors que lui, dans sa tête, il la donne au plus vieux. Et regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit exactement les choses qui sont rattachées aux promesses divines qui sont contenues dans l'Alliance. Versets 28 et 29. « Que Dieu te donne de la rosée des cieux. » Alors, il est en train de dire que Dieu te donne des bénédictions divines. La rosée des cieux, c'est des bénédictions qui viennent d'en haut. Il parle d'en haut, premièrement. La rosée des cieux. « Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre. » Quand on parle, c'est une expression qui veut dire que Dieu te donne ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Et on sait que les bénédictions qui étaient données par un patriarche s'exécutaient dans le temps et dans l'espace. Et autrement dit, c'était pour recevoir quelque chose de très, très, très grand. Il lui dit, et une abondance de froment et de mou. Alors le froment, c'est du blé. Y a-t-il quelque chose de plus beau que de regarder un champ de blé qui ondule? Des fois, je n'ai vu des images de ça dans l'Ouest canadien, des grands champs de blé, là, au soleil, puis le vent là-dedans. C'est vraiment une image d'abondance. Hein? Et aussi, le mou, c'est vraiment la vigne. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'une vigne quand elle est rendue à sa maturité, là, que les branches sont presque sur le bord de casser tellement il y en a? Alors, il prend cette image-là pour lui dire que c'est ça qu'il est en train de lui transmettre. Et ça arrive, là. C'est pas juste un souhait. Je te souhaite ça. Dieu dit que c'est ça qui va t'arriver. Et après ça, il lui dit que des peuples te servent. Alors, il y a toute la question de la force de Dieu face aux ennemis, que des peuples te servent. Des nations environnantes vont le servir, et non pas l'inverse. Et que des nations se prosternent devant toi. Donc, la reconnaissance, les ennemis aux alentours vont se prosterner devant lui. Donc, la force militaire est la force que Dieu donne à cet homme-là. Sois le maître de tes frères. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Que ce serait le plus jeune qui dominerait le plus vieux. Il est en train d'y faire la bénédiction à la mauvaise personne, mais la mauvaise personne va quand même recevoir la bénédiction. C'est spécial. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, quiconque te maudira soit maudit, et quiconque te bénira soit béni. Il y a une leçon là-dedans. Lorsque les hommes dérapent et qu'ils veulent volontairement s'opposer au décret, à la décision divine, Dieu se sert de cette tromperie-là pour donner la bénédiction à celui à qui il voulait la donner. Quelque part là-dedans, là, quand on regarde la part des hommes, c'est juste du péché. La part de Dieu, c'est de se servir du péché pour arriver à faire sa volonté. Alors, lorsque les hommes dérapent, le Seigneur veille à l'exécution et à l'accomplissement de sa volonté. Alors, le Seigneur sait utiliser la folie et le péché des hommes pour accomplir sa volonté. Quand on va arriver au chapitre 50, l'histoire de Joseph, c'est exactement l'histoire de Joseph, c'est un peu l'équivalent. Les frères de Joseph se mettent ensemble pour s'opposer à lui, pour le faire mettre en prison, et Dieu dit qu'il s'est servi de la méchanceté des frères pour établir. Alors, il y a quelque chose, des leçons extrêmement importantes pour nous à retenir là-dedans. Alors, dans le chapitre 50, versets 19 et 20, on a vraiment l'histoire de Joseph qui vient nous démontrer ce principe-là aussi. Joseph leur dit, il parle à ses frères, Joseph leur dit, « Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Il avait voulu y faire du tort. En fin de compte, Dieu a permis que par les circonstances, il se ramasse le deuxième en importance. Et dans ce temps-là, le deuxième en importance, là, en Égypte, là, l'Égypte, à cette époque-là, c'était comme, je ne sais pas, les États-Unis aujourd'hui. Là. C'était gros. Là. Il tombait le deuxième en importance et c'est lui qui était chargé de donner le blé. Et ses frères se sont ramassés là. Quand on lit ça, Dieu dit, ses frères ont voulu te faire du mal, mais Dieu a transformé le mal qu'ils ont voulu te faire en bien, non seulement pour toi, mais pour l'ensemble du peuple d'Israël. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça très beau. Alors, le Seigneur accomplit immuablement ses desseins, ses décisions, ses décrets. Les décisions divines ne peuvent pas être contrecarrées par les hommes. Ils ne peuvent pas être contrecarrées par Satan lui-même, ni par sa horde de démons. C'est une décision du roi de l'univers, et avec tous les attributs qu'il a, il est capable, il a tout ce qu'il faut pour être capable de dérouler ça comme il veut. Et ça, c'est une leçon importante pour nous, parce qu'on n'a pas, on a juste à faire confiance à Dieu. Donc, dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 15, ça dit « Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. » De quoi il parle? Dans le contexte de 2 Corinthiens, c'est Paul, il dit que « Grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. » C'est quoi le don? Jésus-Christ. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, un don de Dieu. » Ineffable, ça veut dire que même si j'étais l'homme le plus éloquent de la terre, mesure mes mots, ineffable, ça veut dire que tu n'es pas capable de trouver des mots assez intelligents, assez sages, assez beaux, assez tout ce que tu voudras pour parler du don de Dieu. C'est un don ineffable. On n'est pas capable de trouver des paroles assez élevées, assez intelligente, assez sage, assez belle. Ineffable, ça veut dire que tu n'es pas capable. Ineffable, tu n'es pas capable de parler avec intelligence comme tu devrais le faire. Jésus-Christ est un don ineffable. Le Seigneur a choisi Jacob pour maillon de la lignée messianique. Et il y a deux bénédictions qui sont rattachées à ça. Il y en a une qui est au niveau matériel. Donc, on parle de la graisse de la terre et toutes ces choses-là, que les nations autour, ça se passe sur la terre. Là. Mais il y a d'autres choses qui sont rattachées à ça, parce qu'il dit, maudit, quiconque te maudira soit maudit, quiconque te bénira soit béni. Alors, plusieurs choses qui sont comprises dans la bénédiction qu'Isaac donne. Lui, il pense qu'il a donné à Ésaü, mais dans le fond, il a donné aux plus jeunes. À Jacob. Il y a quatre choses. Premièrement, l'abondance, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. La rosée du ciel, c'est vraiment les bénédictions divines, célestes. La graisse de la terre, c'est ce que la terre peut offrir de meilleur. Le blé et le vin, ce sont les plantes les plus généreuses de la terre. Et Dieu dit, ça je te donne. Donc l'abondance. La domination, verset 29. Première partie, 29a. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Les peuples et les nations lui seront soumis. À cette époque-là, les guerres, il y en avait beaucoup. Si Dieu dit que les peuples alentour, ils vont être soumis à toi, c'était pas une petite bénédiction, c'était énorme. Parce que la guerre, en ce temps-là, ça joue dur, comme on dit. Il dit, ils vont le servir, ils vont se prosterner devant lui. Et il rajoute même la chose, il dit que tes frères te soient soumis. Normalement, c'était le plus vieux qui recevait le respect de ses frères, les plus jeunes. Ça marche encore un petit peu comme ça aujourd'hui. Hein? Le plus vieux, la famille, il y a toujours un certain prestige, une certaine prestance. Ça marche encore comme ça aujourd'hui, le plus vieux. Et il lui dit, les plus jeunes vont être soumis à toi. Puis c'est lui le plus jeune. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Après ça, il lui dit la protection divine, verset 29b, la deuxième partie. Quiconque te maudira, soit maudit. Quiconque te bénira, soit béni. Et après ça, on a le côté irrévocable, le côté irréversible et la durée de la décision divine. Dans Genèse, au chapitre 27, au verset 33. Ça dit, « Et Isaac fut saisi d'une émotion extraordinaire. » Quand il a été saisi d'une émotion extraordinaire? Quand son fils, le véritable Ésaü, est arrivé, il dit, « Voilà, papa, je t'emmène que ce que tu m'as demandé. » Là, il dit, « pas, je viens de donner la bénédiction à ton frère. Il m'a trompé. Il m'a menti avec sa mère. Alors il dit, Isaac fut saisi d'une émotion extraordinaire et il lui dit, qui est donc celui qui a pris du gibier et m'en a apporté? Et j'ai mangé de tout afin que tu vinsses et je l'ai béni. Et là il dit, et aussi sera-t-il béni? Mais la Bible nous dit dans Hébreu, hein, qu'on a lu dans Hébreu tantôt, qu'il a regretté après, il a voulu se reprendre, mais il était trop tard. Romains 11, versets 26 à 29, on va terminer là-dessus. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il éloignera de Jacob toute impiété. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'effacerai leurs péchés. Il est vrai qu'ils sont ennemis par rapport à l'Évangile à cause de vous, mais à l'égard de l'élection, ils sont aimés à cause de leurs frères. Voyez-vous, le verset 29, c'est un des plus beaux versets de la Bible, à mon avis. Car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu t'appelle au salut, ça dit les dons et la vocation, ça veut dire l'appel. Quand Dieu t'appelle à son salut, c'est irrévocable. Dans l'assurance vie, j'avais sûrement déjà signé des propositions d'assurance vie. Quand vous mettez un bénéficiaire irrévocable, ça ne se défait pas. Parce que le contrat est fait comme ça, puis c'est marqué que cette personne-là, c'est elle qui va recevoir l'argent. Et comment tu voudrais changer ça? Tu appelleras la compagnie d'assurance. J'ai changé d'idée, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, je voudrais changer. Ils vont dire non. Tu as signé, c'est irrévocable, donc ça ne change pas. Bien ici, ce qu'on est en train de dire, les dons et la vocation de Dieu, la vocation dans le sens de l'appel divin vers le salut, c'est irrévocable. Si Dieu a décidé ça par rapport à toi, c'est que ça va s'accomplir, puis rien pour l'empêcher. Quelles sont les applications? Applications, autrement dit, on étudie un texte. Y a-tu des choses qu'on doit mettre en pratique dans notre vie de tous les jours par rapport à ce texte-là? Moi, j'en vois cinq. Il y en a probablement beaucoup plus que cinq, mais on va en regarder cinq. Première leçon, n'utilisons jamais de moyens charnels pour s'approprier des bénédictions spirituelles. C'est ça qu'ils ont fait. Deuxièmement, sachons nous soumettre docilement à la volonté révélée de Dieu. Normalement, Isaac n'aura pas dû faire ce péché-là parce qu'il savait que Dieu avait déjà décidé ça d'avant. Alors, normalement, il aurait dû avoir un effet de soumission à la volonté de Dieu. Dieu nous en dit plein de choses dans les Écritures. Est-ce qu'on se soumet tout le temps? Malheureusement, non. Hein? On le sait dans notre tête qu'on ne se soumet pas tout le temps. Mais on devrait. Troisième, demandons au Seigneur de ne pas permettre que nous tombions, comme Isaac, comme Rebecca, comme Jacob et comme Ésaü, parce que les quatre principaux personnages sont là-dedans. Là. Ils ont tous péché, pas que le même péché, mais ils ont tous péché d'une façon ou d'une autre. Ils sont tous tombés. Sur les trois, sur les quatre, il y en avait un qui était un inconverti, parce que la Bible nous dit que c'est un profane. Les trois autres, c'était des croyants. Qu'est-ce que ça vient nous montrer? Même comme croyant, on peut tomber. On peut demander au Seigneur de ne pas tomber. Ça, c'est une prière que le Seigneur aime. Quelqu'un qui va devant lui, humblement, qui dit, « Seigneur, tu sais à quel point je suis faible, tu sais à quel point je suis pauvre, tu sais à quel point je suis misérable. Je te demande de faire la grâce prévenante, de m'empêcher de faire une bêtise, de tomber puis d'être un scandale auprès des autres. » Quatrièmement, rendons grâce pour la perfection du plan et des décrets de Dieu dans leur conception et dans leur réalisation par sa sage providence. Dieu avait décidé quelque chose. Les hommes ont cherché à s'opposer par le mensonge, par toutes sortes d'affaires. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a quand même accompli ce qu'il voulait. Cinquièmement, plus que tout, adorons le Seigneur lui-même parce qu'il est perfection de sagesse, perfection d'amour, perfection de grâce, perfection de miséricorde. Et là, il faudrait rajouter perfection de, puis tout mettre ses attributs. Il a à peu près une vingtaine, 25, disons. Il faudrait que perfection. Il est parfait dans tout, pour nous autres. Alors que toute la gloire lui soit donnée à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit pour l'œuvre glorieuse du salut de nos âmes. Amen.